Bonsoir. Une mission des Nations Unies est arrivée le week-end dernier à Kinshasa à la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit de la délégation de la division d'assistance électorale de l'ONU qui est venue de New York pour évaluer et examiner les modalités d'un appui éventuel des Nations Unies pour la bonne tenue des élections à venir en République démocratique du Congo. L'équipe onusienne devrait commencer par évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral en RDC. Elle va également chercher à comprendre le cadre juridique et institutionnel régissant le processus électoral. Entre-temps, une soixantaine de structures de la société civile ont, dans une déclaration faite vendredi le 18 mars dernier, invité le président de la République et les autres institutions à mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Quelle lecture faire du processus électoral en RDC à moins de 2 ans des élections générales? C'est le débat de ce soir et pour en parler, nous accueillons ce soir Dieudonné Mirimo, expert électoral, ancien rapporteur de la Commission électorale de la République démocratique du Congo et secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle. Dieudonné Mirimo, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Bob Kabamba, bonsoir. Bob Kabamba devait être avec nous dans ce débat, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Et enfin, Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Alain Lomanja également doit être avec nous dans ce débat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Vous l'avez entendu, une mission des Nations Unies est arrivée le week-end dernier à Kinshasa à la demande de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il s'agit de la délégation de la division d'assistance électorale de l'ONU qui est venue de New York pour évaluer et examiner les modalités d'un appui éventuel des Nations Unies pour la bonne tenue des élections à venir en République démocratique du Congo. L'équipe onusienne devrait commencer par évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral en RDC. Elle va également chercher à comprendre le cadre juridique et institutionnel régissant le processus électoral en RDC. Plus de détails, Jean-Francis Mouya.
Une fois ce diagnostic établi par l'équipe onusienne, les capacités et les besoins des différents acteurs électoraux seront ainsi mieux connus et l'assistance onusienne pourrait alors être mieux définie. Pour rappel, une soixantaine de structures de la société civile ont invité le président de la République Félix Tshisekedi et les autres institutions à mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des moyens conséquents pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Elles ont lancé cet appel vendredi 18 mars dernier dans une déclaration commune. Nous appelons le président de la République, le premier ministre et le parlement congolais à s'acquitter de de voix en mettant à la disposition de la CENI tous les moyens nécessaires pour la réalisation de ses objectifs, considérant ce processus électoral comme une opportunité de rétablir la confiance entre toutes les parties prenantes, a déclaré Jérôme Bosso d'agir pour les élections transparentes et apaisées. Ces structures appellent aussi la CENI à respecter son engagement à fonctionner de manière transparente, indépendante et inclusive. C'est le jeudi 3 février dernier que la CENI a publié la feuille de route du processus électoral 2021-2027. Dans ce document, elle prévoit d'organiser les votes combinés du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies en décembre 2023.
Merci Francis Mouya. Dieudonné Mirimo, expert électoral, ancien rapporteur de la Commission électorale de la République démocratique du Congo et secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle. Nous allons au cours de cette émission essayer de situer le plus possible le public qui nous suit en ce qui concerne le processus électoral en République démocratique du Congo. Et après avoir analysé vous-même ce qui se passe depuis le nouveau pouvoir et à lire les derniers développements de ce processus, quel diagnostic faites-vous à ce stade de ce même processus?
Merci beaucoup pour la question, mais avant d'y répondre, je salue mes co-débatteurs, le professeur Bob Kabamba et Alain Lomanja. Nous avons suivi en introduction de l'émission qu'il y a une mission de la division d'assistance des Nations Unies de New York qui est arrivée à l'invitation de la CENI pour effectivement faire une évaluation du processus. Je rappelle à nos auditeurs qui nous suivent que nous sommes à plus ou moins 560 jours du jour des scrutins. Donc il nous reste 560 jours plus ou moins pour que l'élection présidentielle législative combinée comme la CENI l'a annoncé dans sa feuille de route puisse se tenir. À la date d'aujourd'hui, nous constatons que il y a certaines activités que la CENI a réalisées, notamment la planification de la cartographie pour identifier les sites opérationnels. Ils ont fait cette formation il y a quelques jours passés, mais il s'est fait que là, ils ne sont qu'au niveau zéro, parce qu'il faudrait qu'ils puissent lancer la cascade de la formation, parce qu'il faut former des milliers d'agents électoraux pour cette opération de la cartographie. Mais il doit aussi procéder au contrôle de la qualité des quantités de matériel dans les différents entrepôts à travers les centres d'inscription qui ont fonctionné par le passé. Ces entrepôts sont situés dans les antennes et dans les secrétariats exécutifs provinciaux. Mais ils doivent également se rassurer si le personnel est encore disponible, parce que c'est des personnels temporaires auxquels la CI recourt, et ils doivent se rassurer s'ils sont toujours là. Mais nous notons tout de même que on avait déjà commencé à payer les arriérés des salaires de ces agents qui étaient estimés à 10 mois. Il me semble qu'il y a encore quelques mois qui ne sont pas encore payés. En plus de cela, nous venons de parler du délai qui est très très contraignant, parce qu'en parcourant les différents rapports de la CEI, de la CENI 2011 et CENI 2018, il ressort qu'il a fallu 226 jours pour constituer le fichier électoral en 2006, 420 jours pour avoir les fichiers prêts en 2011 et 549 jours pour que le fichier qui a permis l'organisation de l'élection de 2018 soit prêt. Et si nous prenons ces chiffres-là, au regard des chiffres que je viens d'annoncer qui nous restent avant les jours de scrutin, ça commence quand même à inquiéter, parce que les jours approchent et les préparatifs semblent patauger, parce que les élections se préparent et ça nécessite non seulement les moyens, mais il faut aussi se rassurer que le personnel non seulement disponible, mais est bien formé et le matériel est déployé jusque dans les différents sites. Alors, voilà plus ou moins quelques indications par rapport à cette question.
Mais de l'année Mirumo, selon vous, comment en est-on arrivé à cette situation alors que, avec le nouveau pouvoir, on a entendu très tôt les discours rassurants que les élections prochaines allaient se tenir dans les délais et que le nouveau régime s'était aussitôt mis au travail dès son installation?
C'est vrai que nous avons suivi les discours qui annonçait que les élections allaient se tenir dans les délais constitutionnels, mais nous tous, nous avons observé que la mise en place de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Il y a à peine seulement 5 mois que l'équipe a été mise en place, dans les conditions que tout le monde sait, et c'est ce qui est déjà à la base, parce que c'est cette équipe qui doit prendre en charge le processus électoral. Et donc, il fallait déjà que l'équipe elle-même puisse se mettre à niveau, parce que ils viennent de plusieurs horizons, mais également faire l'état des lieux du processus pour savoir par où ils devaient commencer. Mais une chose est de déclarer, une chose est de voir les déclarations se transformer en actes. Vous avez dit dans l'introduction de l'émission que les organisations de la société civile ont demandé au gouvernement et aux différentes institutions de mettre à la disposition de la CENI les moyens conséquents, et moi j'ajoute à temps, pour permettre à la CENI de pouvoir prendre en charge le processus électoral. Donc s'il y a du retard dans la mise en disponibilité des moyens, et nous allons évoquer la mise en disponibilité du cadre légal, nous attendons la révision de la loi électorale, c'est sûr que ça aura des répercussions sur le calendrier électoral.
Merci de donner Mirimo. Nous vous gardons dans ce débat. Bob Kabamba, que nous n'avons pas écouté en introduction de cette émission, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis bien là. Je suis bien là. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation.
Bienvenue dans ce débat de ce soir. Vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Vous pouvez à tout moment réagir aux deux premières questions que j'ai posées à Dieudonné Mirimo, à savoir son pronostic, son évaluation, son analyse du processus électoral en cours en République démocratique du Congo à ce jour. Et puis aussi les raisons qui expliquent le pessimisme qui commence à s'installer progressivement dans les discours des uns et des autres. Mais la question que je voudrais tout de suite vous poser aussi, c'est que est-ce que pour vous, la présence de cette délégation de l'ONU signifie que effectivement, en moins de 600 jours, la RDC pourrait ne pas organiser les élections dans les délais prévus?
Merci en tout cas pour l'invitation à participer à ce débat et bonjour bonsoir à mon co-débatteur et collègue Mirimo. Et donc d'emblée par rapport à la mission des Nations Unies, je dois vous avouer que je suis un peu étonné que la mission des Nations Unies justement par rapport à l'assistance au processus électoral se passe en mars 2022 alors que ils sont censés assister à un processus électoral qui va avoir lieu en décembre 2023. Et donc, il reste pratiquement, regardant les calculs, il reste pratiquement que...
Mais 560 jours selon les calculs de Mirimo. 560 jours.
Alors, 560 jours. Et donc, la mission des Nations Unies arrive un peu tard, à mon sens, par rapport au calendrier électoral. Quiconque qui connaît, on va dire, la machine des Nations Unies, comment elle fonctionne, elle a toujours eu besoin de beaucoup, beaucoup de temps pour se mettre en route. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une mission qui arrive pour pouvoir arriver à identifier les besoins. Les besoins sont identifiés, transmis à New York. New York doit se mettre en branle pour pouvoir essayer de répondre justement à ces besoins. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, puisque il y a un mécanisme très, très, très lourd et qui prend beaucoup de temps. Et donc, mon point de vue déjà, ça c'est un indicateur qui montre que nous aurons un problème avec 2023 de manière claire, sans ambiguïté. Ensuite, par rapport à votre question, je reviens à l'autre question que vous avez posée sur comment se sentir le Russie. Oui, je pense que ça commence à sentir le Russie, parce que depuis la publication de la feuille de route de la CENI, il y a quand même plusieurs choses qui interpellent, non seulement qui interpellent, et qui déjà montrent que ça sera difficile, voire impossible, de pouvoir tenir les délais constitutionnel. Je prends simplement un exemple en regardant ce qu'eux-mêmes ils appellent le processus d'identification et d'enrôlement de l'électeur, c'est-à-dire en regardant un peu ce qu'ils ont mis, ils ont mis qu'en 18 mois, ils sauront pouvoir arriver à avoir une liste électorale. Alors, mais préalablement, il faut que la CENI dise, est-ce qu'on parle d'une réponse totale de la
liste électorale,
c'est-à-dire que nous allons commencer dès le début. Donc recommencer tout à zéro.
Comme s'il n'existait aucune base précédente.
Oui. Est-ce qu'on va faire une table rase, comme vous le dites, de ce qui a déjà été fait ou pas? Alors, on n'a pas de réponse à ces questions, mais quand je lis effectivement ce qu'ils ont mis dans la feuille de route, je me rends compte qu'il s'agit effectivement d'une réforme totale du fichier électoral. Alors, mon collègue Mirimo vous a donné les chiffres par rapport à ce qu'on appelle réforme totale du fichier électoral. Vous avez les chiffres qui sont là, c'est-à-dire qu'il est quasiment impossible pour la CENI, dans le contexte actuel, de pouvoir organiser d'abord le processus d'identification et d'enrôlement pour le terminer avec ce qu'on appelle le nettoyage du fichier pour éviter des problèmes. Vous vous souvenez, la fois passée, on a eu des problèmes avec, par exemple, l'enrôlement dans le Sankourou, où le Sankourou s'est retrouvé avec des chiffres qui ont vraiment prêté à discussion et non seulement à confusion, mais aussi à discussion. Donc, clairement, lorsque l'on regarde ça, ça veut dire que cette lutte-là doit être nettoyée, et le nettoyage prend aussi du temps, et or, la Constitution oblige la CENI à pouvoir convoquer l'électorat 90 jours avant la fin du mandat, et donc vous pouvez faire les calculs, il est impossible, même dans les délais, dans les dates qui sont données par la feuille de route de la CENI, ça ne tient pas la route. Donc, de mon point de vue, la mission de l'ONU est un indicateur que ça n'ira pas pour 2023, la feuille de route elle-même nous donne des éléments qui montrent effectivement qu'il n'y aura pas, 2023 ne sera pas tenu. Et dans les contraintes qui sont données par la CENI, ils ont mis en deuxième position, par exemple, la volonté politique. Les intentions d'organiser des élections doivent être traduites par des actions concrètes. Et en citant les responsables, le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux et regroupements politiques. En mettant la volonté politique comme concrète, ce qui veut dire que pour la CENI, elle dit de manière indirecte que le politique ne veut pas aller aux élections. Ce qui, de mon point de vue, est assez grave de mettre ça comme contrainte, donc de manière très claire, en disant, ben oui, si pour la CENI, il est clair alors qu'on doit aller vers les élections, la CENI dit que la volonté politique est une contrainte, c'est-à-dire que les acteurs politiques ne veulent pas aller aux élections, là je pense que ça mérite quand même un débat sur la question. D'autres points qui méritent aussi d'être soulignés, monsieur le journaliste, c'est la question sanitaire et la question sécuritaire. Vous savez, monsieur Miri, on parlait tout à l'heure de la cartographie. La cartographie, pour avoir une cartographie claire, c'est-à-dire l'identification de tous les sites où on doit aller s'enrôler, c'est une opération qui prend plusieurs mois, minimum 5 mois, par rapport à ce que l'on a comme expérience de 2006, de 2011 et même de 2018. Minimum 5 mois, mais alors comment voulez-vous, en ce contexte d'insécurité que l'on a par exemple en Ituri et dans le Nord Kivu, que l'on arrive à pouvoir aller faire des missions d'identification des sites potentiels d'enrôlement. Alors si vous calculez vous-même qu'il faut 5 mois pour la cartographie et qu'à la date d'aujourd'hui on est nulle part, ben, ça veut dire qu'on doit compter encore à chaque fois qu'ils doivent commencer, on est en train de reculer. Reculer, et donc, en conclusion, je ne veux pas revenir sur les conditions sanitaires. Vous savez tous que nous sommes dans des conditions sanitaires, c'est-à-dire la lutte contre la Covid avec les mesures de distanciation, avec laver les mains, avec avoir les antigènes, avoir les masques. Alors imaginez-vous un processus d'enrôlement dans des conditions comme ça, ce qui veut dire que le temps qui est prévu doit être des fois même multiplié par 2. On a connu ça dans beaucoup d'autres pays, même dans notre pays où on a eu des systèmes de vote, par exemple dans des contextes donc de Covid, où on a obligé les gens à ne pas voter un seul jour, mais à voter pendant plusieurs jours pour pouvoir arriver à respecter les mesures sanitaires pour de lutte contre la Covid. Donc vraiment, quand on regarde tout ça, il faut vraiment tirer la conclusion, de mon point de vue, que 2023 n'aura pas lieu.
Alors Bob Kabamba, vous comme votre prédécesseur a souligné un certain nombre de difficultés auxquelles on est confronté à ce stade, des problèmes de texte, des allégations de problèmes d'argent, des allégations aussi de suffisamment de volonté politique. Pensez-vous que malgré les discours très optimistes des membres du nouveau régime dès le départ, pensez-vous que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui et voire même l'éventualité de non-respect du délai de décembre 2023, tout cela a été planifié?
On ne peut pas dire que ça a été planifié. C'est-à-dire, au moment où lorsqu'on le regarde, parce que je pense que c'est une question de connaissance de ce que c'est qu'un processus électoral. Un processus électoral, ce n'est pas uniquement le vote. Ce n'est pas uniquement le jour où on va déposer le bulletin dans l'urne. Il y a tous des préparatifs qui se font en amont, qui sont indispensables justement pour garantir l'organisation des élections correctes, transparentes et aussi crédibles. Malheureusement, par rapport à cette compréhension, à mon entendement, c'est que la compréhension de ce processus n'a pas été optimale pour le nouveau dirigeant pour pouvoir prendre en considération véritablement le momentum indispensable pour lancer un processus électoral. Moi, je pense véritablement que c'est un problème qui est lié à ce niveau-là, d'une méconnaissance plus de ce que c'est qu'un processus électoral, de ce qu'il faut pour qu'il y ait un véritable processus électoral, plutôt que une espèce de plan bien détaillé.
Merci Bob Kabamba. Alain Lomandja, vous non plus, on ne vous a pas entendu au début de cette émission. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, je suis là.
Bonsoir à vous donc, vous êtes analyste des questions électorales. Pensez-vous qu'effectivement on est dans une situation, si pas déjà des défaites, il n'y aura pas élection en 2023 comme prévu? Confirmez-vous qu'on est vraiment dans une situation extrêmement rouge où on commence à croire à un miracle pour respecter le délai?
En fait, Je pense personnellement que le doute qui se lève actuellement est tout à fait justifié, étant donné que depuis la publication de la feuille de route de la CENI, on n'a pas vu, en tout cas, des mesures importantes mises en place par la CENI ou par le gouvernement pour essayer de répondre aux contraintes qui avaient été soulignées à cette époque-là. Et on a l'impression que le processus est complètement illisible et le sentiment augmente en voyant qu'on ne sait même pas finalement qui s'occupe de quoi, qui va faire quoi, et on a l'impression qu'il n'y a personne qui dirige le processus ou qui se préoccupe du processus électoral.
Mais Alain Lomanja, comment expliquez-vous qu'on soit arrivé à une situation pareille alors que après trois cycles électoraux précédents, le personnel qui a organisé tout cela est encore en vie, en tout cas la grande majorité, les présidents peut-être qui ont dirigé ces institutions ont changé, ça c'est sûr, mais le gros du personnel existe, les experts comme vous existez toujours depuis le premier processus. Comment expliquer que peut-être que le vocabulaire doit être amélioré, comment expliquer que les gens se soient comportés comme si le pays venait de naître et qu'on venait de découvrir le processus électoral?
Je crois qu'il faut toujours noter que le processus électoral est toujours un peu comme une image, une cartographie et une image instantanée de la situation d'un pays. Et le pays, tel qu'il se présente actuellement, est dans une situation plus ou moins de crise larvée que je n'ose pas dire son nom. Et donc, on voit comme une sorte de paralysie, que ce soit des institutions ou de la CENI elle-même. Regardez d'abord ce qui s'est passé. Il y a eu toutes les déclarations entre les responsables de la CENI et le ministère des Finances. On a attendu, par exemple, qu'il y ait un arbitrage entre ces deux institutions. On n'a pas eu d'arbitrage. Qui a dit vrai dans cette situation? On ne sait pas. Qui a menti? On ne sait pas. Qui a pris des mesures pour qu'on sorte de cette situation de ping-pong? Il n'y a personne jusque-là. On a parlé de difficulté d'organiser le recensement de la population en même temps que le recensement électoral et qu'il fallait à tout prix détacher les deux opérations si on voulait respecter les délais constitutionnels. Mais on a entendu un ministre déclarer tout haut que personne ne pouvait s'opposer à la décision du président de fusionner et le recensement de la population et l'identification ou l'enrôlement des électeurs. Et donc, on est là, on voit approcher des délais constitutionnels, mais il n'y a personne pour lever les options, il n'y a personne pour arbitrer les débats entre les institutions pour qu'on puisse avancer. Alors, les jours passent et on se regarde.
Alain Lomanja, est-ce que c'est possible que le coronavirus soit peut-être la vraie seule explication qui a tout retardé, l'explication à laquelle on ne fait pas attention dans nos analyses?
Mais je ne sais pas à quel moment on peut évoquer la question du coronavirus depuis la mise en place du bureau de la CENI. Parce que si vous vous rappelez bien, le processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI avait été poursuivi sous le prétexte qu'on voulait mettre en place rapidement le bureau pour qu'on évite un nouveau glissement électoral. Depuis la mise en place du bureau, les mesures de distanciation, toutes les mesures qu'on a connues sont plutôt en voie d'être allégées. Ça veut dire que institutionnellement, on ne peut pas prétendre que c'est le coronavirus qui a créé un retard de quoi que ce soit, parce que les parlementaires se réunissent, ils sont là en train de renouveler l'état d'urgence constamment, et le gouvernement est en place, il y a des réunions du conseil des ministres qui sont régulières, la CENI est en place, et les rencontres, il y a des audiences tout le temps. À quel moment le corona a pu empêcher? Par contre, si on évoque le corona dans le processus de la commande des kits d'enrôlement ou des machines à voter, tout cela peut avoir un impact effectivement très important sur le processus électoral. Mais on ne peut pas l'évoquer maintenant pour justifier les retards que nous avons accumulés, je crois que nous sommes en présence de, d'une sorte d'amateurisme qui ne veut pas dire son nom.
Mais alors, Lumanja, nous enchaînons avec vous en donnant la parole à nos auditeurs. Nous allons écouter pour vous et ensuite vous allez donner votre réaction. Ferdinand de Goma qui tente aussi déjà quelques pistes de solutions.
Ferdinand Kendamina à partir de Goma dans la province du Nord Kivu. Même si des délégations et des délégations faisaient des balais diplomatiques et autres missions sans la volonté politique des acteurs nationaux, il n'y aura absolument rien comme avancée. Il faut noter que le cadre juridique et l'apanage des institutions nationales, à savoir le Parlement et la présidence de la République, les moyens logistiques doivent être aussi disponibilisés par le gouvernement. Je crois plutôt que la pression doit être faite à ces différentes institutions comme il est encore temps. Sinon, je ne vois rien qui augure la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et curieusement, cela ne semble pas être la première préoccupation des autorités. Nous voyons seulement la CENI qui ne fait que pleurnicher.
Alain Lomanja, la parole à vous.
Oui, je crois que l'auditeur soulève une question très importante. Avant les délégations de la communauté internationale, des Nations Unies ou d'autres organisations internationales, la première responsabilité d'un processus électoral incombe aux institutions du pays. Et sur ce point-là, l'auditeur a totalement raison. Mais ce que je voulais dire, c'est aussi le fait que ce n'est pas d'abord à la communauté internationale de faire pression sur les institutions du pays pour que le processus électoral soit activé. C'est d'abord une question d'engagement des citoyens, parce que quelque part, le processus électoral, les élections, c'est un droit constitutionnel. Nous avons le droit, en tant que citoyens congolais, de choisir nos élus, ceux qui doivent nous diriger dans des périodes bien déterminées. Et donc, c'est aux populations congolaises de faire pression sur leurs autorités pour que les élections deviennent réellement une priorité et pas seulement dans les déclarations politiques.
Alors, la délégation électorale des Nations Unies et en République démocratique du Congo, selon vous, concrètement, qu'est-ce que cette délégation peut aider à faire dans le contexte actuel pour essayer de sauver peut-être le délai constitutionnel?
Je crois que l'une des choses qui peut être faite, c'est de rapprocher les acteurs politiques pour essayer de réactiver le processus électoral. Parce que si vous regardez bien, les ponts sont rompus entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Depuis la proclamation des résultats passés, mais surtout depuis la mise en place de la nouvelle administration électorale, les ponts sont coupés entre les parties prenantes. Il y en a qui appellent au dialogue et d'autres qui ne veulent pas en entendre parler.
Est-il possible que cette délégation, cette division d'assistance électorale de l'ONU apporte de l'argent au processus électoral en RDC?
Ce n'est probablement pas la division elle-même qui apportera l'argent, mais elle peut contribuer à mobiliser la communauté internationale pour le financement du processus électoral. Mais là, je voudrais encore lever un élément de l'illisibilité de notre processus électoral. Vous avez entendu, après la publication de la feuille de route, le président de la CENI a répété à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas publier le calendrier électoral parce qu'il n'avait pas les moyens suffisants pour être précis dans la programmation des activités préélectorales et électorales. Mais la difficulté, c'est qu'on est en train de tourner en rond. On sait que c'est le calendrier électoral qui est l'instrument juridique contraignant pour toutes les parties prenantes. Ça veut dire que sans calendrier électoral, le gouvernement ne sentira jamais la nécessité de débloquer des fonds en faveur de la CENI. Mais en même temps, la communauté internationale ne peut se mobiliser véritablement que s'il y a cet instrument contraignant que le calendrier électoral. Est-ce qu'on va se baser sur une feuille de route qui ne définit que des plages pour, au général, pour exiger ou demander le financement du processus électoral, ça c'est une question qui se pose.
Merci Alain Lomanja, nous vous reprenons pour la conclusion de cette émission. Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Pour vous, ce commentaire de cet auditeur, Albert.
Albert Kolembela Bokomba, depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous saluons la présence de la délégation de la division d'assistance électorale de l'ONU qui est venue de New York pour évaluer et examiner les modalités d'un appui éventuel des Nations Unies pour une bonne tenue des élections à venir. Évaluer l'environnement politique, sécuritaire et électoral, c'est bien. Mais ce qui est important au stade actuel, c'est la volonté politique. À mon avis, cette délégation de l'ONU devra d'abord chercher l'harmonisation et le consensus des parties prenantes qui sera suivie d'évaluation du financement du processus électoral par le gouvernement congolais pour permettre à la CENI d'organiser une élection moins douteuse.
Bob Kabamba? Bob Kabamba, vous êtes encore avec nous? Dieudonné Mirimo, nous avions prévu pour vous un autre auditeur. Vous êtes expert électoral, ancien rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo et secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle. Peut-être vous voulez réagir d'abord à cet auditeur avant que nous vous fassions écouter celui que nous avions prévu pour vous.
Tout tourne autour de la même chose. Volonté politique. Et le retard est là, il n'y a plus de doute possible que la date constitutionnelle sera respectée. Ça, on doit être clair, parce que il n'y a pas de miracle possible. Et donc, l'auditeur y est revenu en indiquant que la division d'assistance électorale des Nations Unies peut peut-être pousser les acteurs politiques à pouvoir libérer les financements pour la CENI, à libérer également les lois qui doivent permettre la CENI de pouvoir avancer, mais surtout les parties prenantes à pouvoir se mettre ensemble, parce que sans consensus entre les parties prenantes, en tout cas, on ne va pas avancer en dehors des contraintes déjà logistiques, financières et politiques. On a oublié de parler de la contrainte sécuritaire. Évidemment, Bob a évoqué cela parce que nous savons que depuis quelques mois déjà, l'état de siège est opérationnel dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais nous ne devons pas perdre de vue que la révision de la loi électorale qui est inscrite à la session de mars fait partie aussi des différentes contraintes. Mais c'est là, même si la loi est votée à la session ici, le retard est déjà accumulé et nous devons nous préparer déjà à savoir comment nous allons gérer la suite. Parce que même si le calendrier est publié, le calendrier ne va pas faire sauter les étapes, hein, les contraintes qui sont là. En tout cas, nous allons les affronter chaque jour. Parce que le malheur du pays, c'est que tous les acteurs ne considèrent que les jours J du scrutin, hein, oubliant que pour y arriver, ça nécessite plusieurs implications, notamment logistiques et autres, et c'est tout ce qu'on oublie, mais le plus grand de tout, c'est la volonté politique qui est à la base. Parce qu'il y a la volonté politique, il y a longtemps qu'on aurait déjà mis en marche la machine pour nous permettre de pouvoir avoir ces élections dans les délais conditionnels.
Merci Dieudonné Mirimo. Professeur Bob Kabamba, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, je suis là.
Oui, nous ne savons pas si vous avez eu le temps d'écouter l'intervention de l'auditeur Albert de Kisangani, qui lui se satisfaisait quand même de la présence de cette délégation des Nations Unies, et il ajoutait, je le cite, à mon avis, cette délégation de l'ONU devrait d'abord chercher l'harmonisation et le consensus des parties prenantes qui sera suivi d'évaluation de financement du processus électoral par le gouvernement congolais pour permettre à la CENI d'organiser une élection moins douteuse. Nous allons vous permettre de réagir à la fois à Albert, dont je viens de vous lire un extrait, mais aussi à Alidor Mampuya de Kananga.
Maître Alidor Mampuya, avocat au barreau du Kasaï central et résident dans la ville de Kananga. Le processus électoral en RDC est en train de patiner, car à une année des élections, il n'y a aucun indicateur qui traduit la volonté des politiciens d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. La CENI ne dispose ni des moyens, et encore la loi électorale continue à diviser les différentes parties prenantes. Cela prouve à suffisance que les élections ne seront pas organisées dans les délais constitutionnels, soit on aura des élections bâclées les plus contestées du monde, soit le glissement est en train de se profiler et de se dessiner à la longueur de journée.
Bob Kabamba.
Merci en tout cas pour ces différentes questions. Pour la réponse à M. Albert, c'est qu'il faut bien se rendre compte que cette équipe qui est arrivée, il s'agit des experts qui sont venus en fait faire une espèce d'identification pour pouvoir arriver à identifier le besoin de la CENI et du processus électoral. Je pense que ce n'est pas vraiment leur mission de pouvoir travailler pour arriver à un consensus. Là, pour travailler à un consensus, là, je crois que ça dépend beaucoup plus des autorités congolaises elles-mêmes qui doivent définir, entre guillemets, les modalités de gouvernance qu'elles veulent. Est-ce qu'elles veulent une gouvernance consensuelle, c'est-à-dire avec l'opposition, ou bien est-ce qu'elles veulent une gouvernance donc exclusive que la majorité, pour pouvoir décider à elle seule de différentes options, devraient être élevées. Là, en fait, ça, c'est une réponse que je pense que on aura dans les prochaines semaines, je pense, qu'il y aura déjà des questions qui vont être soulevées et qu'on pourra apporter des réponses à ce sujet. Et donc, l'ONU ici, c'est essentiellement essayer d'identifier de quoi la CENI a besoin. Je pense que cette assistance va aller beaucoup plus comme on a déjà connu auparavant, c'est qu'on appelle l'appui logistique, c'est-à-dire aider la CENI, par exemple, dans tout ce qui est déploiement des matériels dans la RDC, aussi bien au niveau provincial qu'au niveau des antennes de la CENI, voire même jusqu'au niveau des bureaux, soit d'enrôlement, soit des bureaux de vote. Généralement, il y aura, je pense que ça va aussi aller dans ce sens-là, parce que c'est quand même une enveloppe, une charge financière assez importante et qui peut être prise en charge par l'ONU. Alors, sur la deuxième question, par rapport à la question de l'auditeur de Kananga, je pense qu'il a tout à fait raison en disant que à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur qui montre effectivement qu'il y a un processus qui est lancé. Et comme il n'y a pas d'indicateur, au sein de la population, bien entendu, on se rend compte, on analyse et on tire les conclusions. Si ici, il reste 560 jours et il n'y a aucun signal, il n'y a pas de faits, activités qui montrent qu'il y a véritablement un processus électoral qui est lancé, alors les électeurs, la population tirent la conclusion bien que s'il n'y a pas d'indicateur, s'il n'y a pas d'activités qui prouvent qu'il va y avoir des élections, alors on tire les conclusions que 2023 effectivement n'aura pas lieu. Alors dans ce cas-là, si 2023, qu'est-ce qu'on fait ? N'a pas lieu, qu'est-ce qu'on fait ? Là, je pense que la balle est du côté des autorités politiques.
Professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes, Bob Kabamba, nous sommes en train de terminer cette émission. Sans langue de bois, selon vous, avec vos analyses, peut-on déjà dire à ce stade que le délai constitutionnel ne sera pas respecté pour les élections de la RDC? Et dans tous les cas, s'il y avait miracle à faire, selon vous, que pouvons-nous faire pour les jours qui restent pour que miracle arrive et que des élections aient lieu selon le délai constitutionnel? Mais pouvons-nous déjà, sans langue de bois, le déclarer?
Merci pour cette conclusion. Donc, il faut bien savoir que les élections, il n'y a pas de miracle dans les élections. C'est des additions. On additionne 1 plus 1 égale 2. Et c'est mathématique. Et malheureusement, dans le contexte actuel, nous faisons les calculs 1 plus 1 égale 2. Et on se rend bien compte qu'en conclusion, que 2023 n'aura pas lieu. Alors si 2023 n'a pas lieu, il faut véritablement, de mon point de vue, essayer qu'il y ait une initiative au niveau des autorités pour justement apporter quand même qu'il puisse y avoir des signaux clairs qui montrent qu'il y a une volonté de pouvoir aller aux élections. Mais cette volonté d'aller aux élections, de mon point de vue, ne peut être possible que dans un consensus avec les différentes parties prenantes, notamment l'opposition, la société civile, etc., etc., la communauté internationale, pour accompagner que 2025 qui n'aura pas lieu puisse se faire dans un délai acceptable par tous, dans des conditions de gestion et des règles acceptées par tous.
Merci Bob Kabamba. Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Pouvons-nous dire à ce stade que le délai constitutionnel pour les élections de décembre 2023 n'aura pas lieu?
Ce que je peux dire personnellement, c'est que si on continue dans la situation actuelle, sans mesures correctives, sans mesures de mitigation pour réduire les contraintes qui auraient été listées par la CENI, effectivement, on finira par arriver à ne plus pouvoir organiser les élections en 2023. Mais cela dépend encore des options qui peuvent être lésées par la CENI, mais aussi à l'Assemblée nationale. Si, par exemple, on ne fait pas une réponse totale de fichier électoral, mais qu'on met à jour le fichier de 2018, peut-être qu'on peut encore s'en sortir. Mais encore une fois, il faut que des actions soient engagées maintenant pour espérer tenir les délais constitutionnels.
Merci Alain Lomanja, et c'était aussi votre dernier mot. Dieudonné Mirimo, expert électoral, ancien rapporteur de la Commission électorale de la République démocratique du Congo, secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEAC en sigle. Si on veut être sincère et ne pas embrouiller le public, est-ce qu'on peut dire, selon vos analyses à ce stade, que les élections générales de 2023 en République démocratique du Congo n'auront pas lieu en décembre 2023?
Au regard des indications, des indicateurs actuels, sans langue de bois, on peut dire sans ambages en tout cas que les élections n'auront pas lieu en 2023. Pour cela, il faudrait que les acteurs politiques, les autorités du pays prennent la mesure de cette situation pour pouvoir se prendre en compte ces réalités qui sont en face de nous. Comme l'a dit le prof Bob, il n'y a pas de miracle effectivement en élection. Les élections exigent la précision. Donc il n'y a pas de tâtonnement possible si on veut aller à des élections que nous voulons libres, transparentes et équitables. Donc voilà un peu que l'opinion se prépare de toutes les manières au regard de ce auquel nous observons aujourd'hui. Il n'est pas possible que nous ayons les élections dans les délais constitutionnels.
Mais Dieudonné Mirimo, est-ce qu'il est possible que vraiment par pirouette exceptionnelle, qu'on accélère les réformes au niveau des textes et qu'on trouve toutes les sommes nécessaires pour organiser les élections et même un peu plus? Est-ce qu'il est possible que le miracle qui semble déjà échapper ait lieu et qu'on ait des élections, les bonnes élections, en décembre 2023?
Si c'est pour avoir des élections bâclées, oui, il est possible d'accélérer les lois, les finances et tout ce que vous avez énuméré. Mais si nous voulons des bonnes élections, libres, démocratiques et transparentes, en tout cas pour 2023, ce n'est plus possible.
Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Dieudonné Mirimo, Bob Kabamba et Alain Lomanja. Dieudonné Nyangasa, Wanyangasa et Guy Maté m'ont aidé à préparer cette émission, sans oublier qu'il y a une coutée dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Dona Madimba était à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.